France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Fanny Richet et Loïc Antoine, réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. À la fin du mois de juillet, des affrontements armés entre Cambodge et Thaïlande rappelaient que de nombreux conflits frontaliers en Asie restent irrésolus, résultat d'une histoire longue et douloureuse. Frontières en Asie, des conflits en héritage, c'est notre série de la semaine. Aujourd'hui, entre Pakistan et Afghanistan, une ligne durant sous tension.
The Pakistan, has continued to emphasize the need.
Le Pakistan continue d'insister sur la nécessité d'une gestion efficace des frontières. C'est important pour lutter contre le terrorisme transfrontalier qui se développe en raison des mouvements des terroristes qui passent d'un côté à l'autre de la frontière.
Il y a eu un afflux d'insurgés de l'Afghanistan vers ici. Mais maintenant, il est pratiquement impossible pour les gens de franchir la barrière. Si des groupes tentent de la franchir, nous les abattrons. Nous suivrons les ordres, mais nous protégerons la clôture à tout prix.
Depuis le début des opérations, je ne vais plus travailler. Et même ici, je ne me sens pas en sécurité. Nous n'arrivons plus à dormir la nuit. Pourtant, notre patrie, c'est ici. Nous sommes nés ici. Mais le gouvernement pakistanais refuse de nous accepter.
Sur cette frontière qu'ignore royalement les montagnes et les bassins brumeux et que cet Afghan réfugié au Pakistan redoute de devoir traverser de nouveau, la terre a tremblé le 31 août dernier. Côté Afghan, où se trouvait l'épicentre du séisme, les habitants ont eu la sensation d'avoir construit leur village sur le dos d'un animal qui s'ébroue après des siècles de sommeil, pour reprendre les mots de l'écrivain Laurent Godet. Le grondement était immense et couvrait tous les bruits. Oui, la terre tremblait, fissurant le bitume, coupant l'électricité, ouvrant de grandes brèches dans les murs des maisons, renversant les chaises et inondant les rues d'éboulis et de poussière. Les hommes redevenaient de minuscules insectes qui courent sur la surface du globe, priant pour ne pas être engloutis. 2500 personnes l'ont finalement été, selon un bilan toujours provisoire. Nous sommes ici aux limites entre l'Asie des plaines, des hautes montagnes et des hautes terres, entre l'Asie du Sud et l'Asie centrale, à l'ouest le vaste Afghanistan, à l'est son voisin le Pakistan, quatre fois plus densément peuplée, entre les deux une frontière de 2430 km, appelée Ligne Durand, du nom de Sir Mortimer Durand, qu'il a dessiné en 1893 pour séparer l'émirat d'Afghanistan de l'empire des Indes britanniques. Admise par le Pakistan, mais rejetée avec force par l'Afghanistan, cette frontière a divisé la grande communauté pachtoune entre les deux pays. Elle est aujourd'hui le théâtre à la fois d'attaques terroristes, des très nombreux groupes qui s'y cachent, et d'opérations militaires d'autant plus fréquente que l'armée pakistanaise accuse les talibans afghans au pouvoir depuis 2021, de retour au pouvoir, de soutenir les groupuscules qu'elle, l'armée pakistanaise, combat. Nous en parlons ce matin avec notre invité Georges Lefeuvre. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes anthropologue, chercheur associé à l'IRIS, vous êtes ancien diplomate et vous avez vécu sur cette frontière, ou précisément sur ces 2500 kilomètres.
Dans la région de Chitral, c'est au nord, tout à fait le nord-ouest du Pakistan. Alors, pour être précis, c'est à la frontière du Nouristan pour le Pakistan, pour l'Afghanistan, je veux dire, et puis la région de Chitral. Puis autrement, je me suis déplacé beaucoup tout le long de cette ligne-là, bien sûr, sur le Waziristan, Rost, des deux côtés de la frontière.
Quand vous habitiez sur cette frontière, vous n'étiez pas l'aimable voisin d'Oussama Ben Laden. Lui, c'était bien plus tôt et c'était ailleurs.
Oussama Ben Laden, oui, il est arrivé en 1986, si ma mémoire est bonne. Et il s'est installé, en effet, sur la frontière entre le Waziristan afghan et Rost, pakistanais, je dirais, Rost côté afghan, c'est dans la ville de Djaji, qui est juste sur la ligne du rang, et ce n'est pas un hasard.
Pourquoi ?
J'avais rencontré en octobre 1989, donc trois ans après, tout à fait par hasard, lorsque j'étais directeur de l'Alliance française de Peshawar, j'avais rencontré Abdallah Azam. qui est mort d'ailleurs dans l'explosion de sa voiture, peu de temps après qu'on ait eu notre conversation. Et alors, c'était en fait avec Al-Zawahiri, c'était le conseiller de Ben Laden. J'ai jamais vu Ben Laden, mais lui, je l'ai vu, Abdelazam. Et il m'a dit des choses que je pouvais pas bien comprendre en 89, j'ai compris après. Et il me disait, voilà, les frontières, c'est une invention de l'Occident, et les frontières, ça divise la Oumma. Et on parle de la communauté des croyants, et je m'aperçois en effet que pour lui, la définition de la nation, c'est la Oumma. Si vous êtes suédois, japonais, sénégalais, ou pakistanais, ou afghan, si vous êtes musulman, vous faites partie de la Oumma. Et comme il y a une continuité de croyants, au moins de Jakarta jusqu'à Casablanca, c'est bien ça l'idée de refaire le grand califat, qui serait une sorte de territoire uni. Alors il me dit, c'est très simple, on est là pour faire, le mot qu'il avait employé, faire bouillir la frontière. Il faut que nous déstabilisions les frontières et que nous attaquions, ce que d'ailleurs Al-Qaïda a fait, et plus tard le TTP dont on va parler, en attaquant le pouvoir central, que ce soit à Kaboul, que ce soit à Islamabad. Il faut déstabiliser tout ça, il faut faire bouillir la frontière pour la supprimer et que l'on ouvre l'espace au califat. Donc, vous comprenez que la ligne Durand est une cicatrice qui ne se referme pas.
Sans entrer tout de suite dans les détails et encore moins l'histoire de la formation de ces groupes terroristes, où sont les points, ou peut-être moins précisément des points, les cercles, les halos sur et autour de cette frontière qui sont les plus exposés au terrorisme aujourd'hui, où les groupes djihadistes sont les plus concentrés, si on devait se faire une carte mentale de cette frontière?
Oui. Alors, si vous prenez la ville de Peshawar, qui est à la frontière de l'Afghanistan, côté pakistanais, vous allez beaucoup plus au sud, entre Peshawar et la mer d'Oman, vous avez El Balouchistan, je dirais, il faut El Balouchistan avant.
Qui est vraiment au sud, on en parlera dans le focus tout à l'heure.
Voilà, donc vous avez une province tribale, qu'on appelait donc les zones tribales, qui fonctionnaient jusqu'en 2018, hein, sur un statut de droit coutumier, mais qui ne correspond pas du tout à l'État pakistanais qui établit quand même son autorité. Mais il n'y avait pas l'armée, il n'y avait rien de tout ça. Le Waziristan. Voilà, le Waziristan, côté pakistanais, c'est le lieu sans doute le plus virulent au niveau terroriste. Et c'est pas un hasard, d'ailleurs, de savoir qu'au Waziristan, le grand patron des insurrections et du terrorisme, c'était Jalaluddin Haqqani, dont le fils Sirajuddin Haqqani est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur du gouvernement afghan. Et de l'autre côté, côté afghan, il y a cette province de Rost, qui est le pendant direct du Waziristan, pour la simple raison que les uns comme les autres, de chaque côté de la frontière, sont de la même tribu, Zadran. Si vous remontez comme ça, vous allez trouver des phénomènes semblables. Par exemple, dans la région de Jalalabad, côté Afghanistan, Mohmand, côté pakistanais, vous avez des tribus qui sont les mêmes des deux côtés. Et là, ce sont également des très hauts lieux de terrorisme.
Et qui se cachent dans des zones montagneuses propices à ce genre à la fois de cache et d'attaque.
Oui. Ils ont une difficulté actuellement quand même, c'est que l'armée pakistanaise a mis du barbelé sur, il a presque fini les 2000 kilomètres, avec peut-être qu'il y a des mines, je ne sais pas, mais il y a des fosses profondes, du barbelé, etc. Mais enfin, le barbelé, ça se coupe quand même, quoi, et ça ne les empêche pas vraiment tout à fait de passer. Et pour l'instant, ceux qui font le coup de feu côté pakistanais, qui sont des pakistanais, talibans pakistanais, le font là. Mais ils sont plus ou moins, ils viennent du côté d'Afghanistan. Mmh. Voilà.
Et la dernière attaque en date, c'était il y a 4 jours dans le nord-est, dans la province, alors dites-moi si je le prononce bien, de Khyber Pakhtunkhwa, c'est ça?
Oui, Pakhtunkhwa.
Le Tehrik et Taliban, le TTP, qui a encore commis une attaque contre l'armée pakistanaise, 12 soldats sont morts. Le TTP a saisi 10 mitrailleuses et un drone, c'est selon l'inventaire qu'ils en ont fait. En tout cas, quand cette frontière est dessinée par Sir Mortimer Durand, c'est en 1893, Georges Lefebvre, soit plus d'un demi-siècle avant qu'un autre Britannique, Sir Radcliffe, dont on parlait hier, soit chargé de tracer la frontière entre le Pakistan et l'Inde. Là, à l'époque, Sir Durand, le monde est encore très différent. Le Pakistan n'existe pas en tant que tel. Il fait partie de l'Empire des Indes britanniques qui se porte bien. Pourquoi Sir Mortimer Durand doit-il tracer précisément cette frontière entre les Indes britanniques et l'Émirat d'Afghanistan?
C'est si compliqué qu'on va essayer d'être bref, quand même. On va essayer. Bon. Les empires n'ont pas de frontières. Bon. L'Empire russe...
Les empires n'ont pas de frontières parce qu'ils rétrécissent et s'agrandissent à mesure des victoires.
Ils se développent au fur et à mesure des conquêtes, ils se rétrécissent au fur et à mesure des échecs. Napoléon va jusqu'à Moscou, ensuite c'est la Bérézina, et l'Empire se rétracte. Bien. Cette zone qu'on appelle l'Afghanistan, maintenant, c'est une zone de peuplement pachtoun, je parle avant la création de l'Afghanistan, en 1747, est pris en étau par trois empires qui se développent les uns vers les autres, l'Empire des Grands Moghols côté Inde, l'Asie centrale, les Chabanides, et puis l'Empire iranien des Safavides, d'où les révoltes des pachtouns, pour ouvrir un espace de respiration. Et incroyable, un type qui était quand même pas, qui était un peu un va-nu-pied en même temps, arrive à refouler les armées mongoles, les armées chabanides, je simplifie un petit peu, et même casser la figure aux Iraniens. Et l'Afghanistan est créé comme ça. Mais c'est pas fini, j'arrête, parce que les empires médiévaux sont remplacés par les empires coloniaux. Les Russes, et les Anglais, allez-y.
Et les Anglais, donc ce Sir Mortimer Durand, qui est-il ? Est-ce qu'il connaît aussi peu l'Afghanistan et le Pakistan que plusieurs années plus tard, Sir Radcliffe connaissait très peu également l'Inde et le Pakistan ?
Vous savez, je crois que dans les accords de Sykes-Picot, qui ont divisé le Moyen-Orient, M. Sykes, le Britannique, et Picot, le Français, sur une table de bistrot quelque part à Damas, ont aussi découpé le Moyen-Orient, un peu n'importe comment, on en voit les résultats. Alors, M. Mortimer Durand, en fait, il n'avait pas trop le choix, si je puis dire, parce qu'il recevait les ordres aussi de Londres. Alors, il s'était passé quoi ? Les Anglais, les Britanniques, voulaient, à un moment donné, au début du 19e siècle, milieu même, voulaient coloniser l'Afghanistan pour faire pièce aux Russes qui n'aillent pas plus loin. Que les Russes ne dépassent pas le grand fleuve Amou Daria, au nord de l'Afghanistan, aujourd'hui, que Alexandre le Grand appelait l'Oxus. Bon. Alors, il essaye. Et pour ça, il commence par déposer un roi, qui s'appelait Dost Mohammad, le remplace par un de ses cousins, par Shah Shuja, et Shah Shuja doit tout aux Britanniques, il est roi d'Afghanistan. Et les Britanniques arrivent à Kaboul. Alors ils arrivent en nombre, avec leur famille, la domesticité, ils créent des théâtres, des clubs de ceci, de cela, et ils vivent, et ils arrivent à être 12 ou 13 000 habitants dans la petite bourgade de Kaboul, à l'époque, qui fait peut-être 150 000 habitants. Et puis, mais ça s'est reproduit après, c'est pour ça que je le dis.
Donc, Sir Durand, il vivait avec eux ?
Ah non. Durand n'a rien à voir pour l'instant. Les Britanniques sont là-bas, et puis, on est en 1838. Et puis, voilà que des Afghans prennent des snipers, on dirait aujourd'hui, prennent des vieux fusils Enfield et poum, tuent un Anglais. Puis deux, puis quatre, puis huit, puis dix. Des embuscades, jusqu'à ce que Elphinstone, qui était le général... qui tenait les troupes britanniques à Kaboul, va voir le roi, Shah Shuja. Il dit à Shah Shuja, écoutez, majesté, vous êtes roi grâce à nous, il faut assurer notre défense. Et Shah Shuja, très oriental, dit, mais je vous dois tout, vous êtes mes amis, vous pouvez venir quand vous voulez. Vous aurez le droit, je vous offrirai mes meilleurs raisins, mes meilleurs, etc. Mais puisque c'est moi le roi, je vous remercie, c'est moi qui décide. Et maintenant, go home, vous rentrez chez vous. Et alors, la guerre continue, mais ça s'est passé pareil avec les talibans, en quelque sorte. La reconquête des talibans, ça s'est fait comme ça. Et les Américains n'ont pas vu le coup venir. Là, je viens à ce qui s'est passé récemment. Si bien qu'un jour, le général Elphinstone décide de rapatrier tout le monde vers ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Voilà. Mais il n'y a pas d'hélicoptère pour le faire. On est en 1842. Et le 14 janvier 1842, alors qu'il fait moins 15 degrés, une file de 16 000 personnes tente de rejoindre ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Il y a 12 000 civils, 4 000 soldats. Il n'est resté qu'un seul survivant pour témoigner de ce qui s'était passé. C'est ce qu'on appelle le massacre de Gandamak. Ça s'est passé à Gandamak.
Mais vous nous aviez promis qu'on n'irait pas trop loin et qu'on ne ferait pas trop long. Or, là, vous êtes toujours dans les années 1840 et c'est en 1893 qu'est dessinée cette frontière.
J'arrive.
Je sais bien.
Ça va très vite.
Je sais bien, mais comme on a toute une histoire à raconter...
Mais ça va très vite.
Donc, comment il s'y prend, Sir Durand, pour dessiner cette frontière à la fin du 19e siècle ?
Alors, il s'y prend d'abord pourquoi il le fait. Il le fait par ordre de Londres, qui réalise que l'Afghanistan n'est pas prenable comme une colonie. Ce sont des insoumis. C'est pas possible de gagner une guerre sur l'ensemble de l'Afghanistan. Donc, ils vont essayer d'en faire une sorte de protectorat. Et ils décident à ce moment-là, avec le roi de l'époque, Abdul Rahman, de dessiner une frontière, qui n'en est pas une, enfin, au sens français, mais de dessiner une ligne de démarcation jusqu'où va l'influence britannique et où commence l'influence du roi. C'est une sorte de ligne de cessez-le-feu, en fait. C'est pas autre chose au départ. Donc il n'a pas sorti ses dons de géographe qu'il n'avait pas, pour éviter de diviser une tribu, des choses comme ça. Vous savez, moi, je connais une famille dans l'Ouaziristan qui a, il y a sa maison là, et il passe la frontière tous les jours pour aller à son étable, quoi. C'est un petit peu incroyable, quoi. Bon, c'est comme ça que ça se passe.
Alors. Et d'ailleurs, cette ligne du rang ne s'appelle pas, en anglais, quand elle est tracée, elle ne s'appelle pas border,
ah non,
frontière,
alors voilà.
Elle s'appelle frontière.
Justement, ça, c'est, j'ai lu toute la correspondance entre Londres et le vice-roi des Indes à l'époque. Et Londres, donc, l'administration de la reine Victoria, dit toujours, attention, dans la rédaction des traités, il y en a eu quatre, à ne jamais employer le mot « border » parce que la ligne du rang a rien, c'est mot à mot ma traduction, n'a rien de la rigidité d'une « international border ». Et là, je vais faire mon petit linguiste en deux minutes. Il y a une inversion du sens pour nous les Français. « Border » vient du mot « bordure », mais ça veut dire « frontière internationale » pour les Anglais. Et « frontier » veut dire les bordures de l'Empire. D'où l'appellation de la province du nord-ouest de l'Inde britannique, North West Frontier Province, c'est-à-dire la province des bordures nord-ouest.
En tout cas, on a du mal à imaginer ce Sir Durand en train d'explorer le territoire pour savoir exactement où poser les points de la frontière. Les équipes, d'ailleurs, ont du fil à retordre avec les tribus. Déjà, 20 ans avant le premier traité de la ligne Durand, un article du New York Times parlait de cellules arabes wahhabites très actives dans l'Ouaziristan. Donc, il y avait déjà des troubles, des débordements et des attentats. Aujourd'hui encore, Georges Lefebvre, l'Afghanistan s'efforce de démontrer dossier pléthorique à l'appui que cette frontière n'en est pas une, alors que pour le Pakistan, c'est un non-sujet. Pourquoi les deux pays ont-ils une façon totalement différente d'interpréter et même de vivre un même héritage ?
Alors, ça, c'est le cœur de la question. Parce que pour le Pakistan, il faut comprendre que quand ce jeune État sort de l'histoire pour sa création en 1947, j'avais écrit un article dans Politique internationale qui s'appelle « Comment vivre entre deux lignes sismiques ». On l'a vu au mois de mai dernier, le Pakistan naît entre deux frontières improbables, celle du Cachemire qui est encore disputée 80 ans après avec l'Inde, et celle de l'Afghanistan, donc de la ligne Durand. Qui ? Ben c'est très simple, que ce soit le roi, le bon roi pacifique à cette époque-là, le roi Zahir Shah, que ce soit ensuite le premier président de la République d'Afghanistan de 73 à 78, que ce soit ensuite les quatre présidents communistes, que ce soit ensuite les talibans, et là j'aurai un mot à dire là-dessus, tous ont refusé de reconnaître que la ligne du rang était une international border. Voilà. Ils ont dit, on ne peut pas légitimer ce qui n'est pas... ce qui n'a pas de sens.
Ils parlent tous de territoires usurpés.
Voilà.
Et pour certains, font éditer des cartes qui repoussent la frontière afghane jusqu'aux rives de l'Indus.
Absolument.
Ils ne veulent pas entendre parler de cette frontière parce qu'elle divise le peuple pachtoun en deux. Cette ligne du rang a pu couper le peuple pachtoun, qui n'est pas une petite minorité brimée, qui est peuple...
C'est 55-60 millions d'habitants.
Voilà. Comment ce peuple a-t-il pu être divisé en deux par cette ligne du rang ?
Alors, cette ligne du rang, en fait, correspondait à peu de choses tant que l'Empire britannique était là. D'abord, pour une première raison, c'est qu'à chaque changement de roi, il y a eu un nouveau traité, en 1905, 1919, 1921. Mais en 1919, on peut dire que les Anglais ont perdu leur parti, parce que les Anglais donnaient beaucoup d'argent au roi d'Afghanistan pour assurer son développement et pour qu'il accepte la ligne du rang. Que ensuite, dans ses mémoires, le roi Abdulrahman a dit « J'ai signé la ligne du rang under duress, par la force, obligé. » C'était comme un couteau dans mes organes vitaux, into my vitals. C'était pas accepté du tout. Mais il y avait beaucoup d'argent qui venait là. Et le roi Amanullah, 1919, c'est lui qui a obligé les Anglais à signer un truc que les Anglais voulaient pas. Il dit « Je suis souverain. J'ai pas besoin d'autre fric. Je suis souverain. » C'est d'ailleurs pour ça que ça a été signé en juin 1919, et aujourd'hui encore, que ce soit les talibans ou la République d'Ashraf Ghani avant, on fête l'indépendance de l'Afghanistan toujours ce jour de mois d'août, je veux dire 19 août 1919. Bon, alors, le vice-roi des Indes passe un mot à la reine ou à l'administration de la reine Victoria, en disant « Vous inquiétez pas, on a signé. Mais dans un an, il reviendra contrit, c'est le mot qu'il a employé. Il se mettra à genoux pour qu'on lui donne de l'argent. Et donc, la ligne de rang sera à nouveau... voilà. Sauf que Amanullah est parti en France, en Angleterre, pas en Angleterre, non, en France, en Allemagne, en Italie, en Russie. Et il est revenu avec plein de contrats de coopération, y compris économique, y compris logistique. La première ligne aérienne régulière entre Tachkent et Kaboul a été inaugurée par les Russes. Donc en 1920-21, avec un vieux coucou, vous imaginez, un monomoteur.
Il n'avait plus besoin des Anglais.
Il n'avait plus besoin des Anglais, voilà. Alors donc la ligne Durand, du coup, devenait une virtualité. Sauf que, et là je reviens à votre question, lorsque les Pakistanais sont... Le Pakistan est créé, le Pakistan a besoin d'une frontière. Et au nom, disent-ils, de la pérennité, de l'héritage des traités, ils le disent en effet, it's a no question, ce n'est pas une question, c'est notre frontière, point bas. Et on peut les comprendre, là, je suis anthropologue, donc je ne fais pas de politique, on peut les comprendre, aussi bien que l'on peut comprendre les Afghans qui employaient dès 1955, lorsque le Premier ministre s'appelait Daoud, qui est devenu ensuite président de la République, c'est lui le premier qui a parlé des territoires usurpés, et je ne m'attendais pas à ce que, après le retour des talibans, le 15 août 2021, 6 mois plus tard, au mois de janvier, c'est quand même cité par le journal Dawn, qui est un journal sérieux, c'est quand même Monsieur Mujahid, qui est le ministre de la Culture et de l'Information, qui dit, ah non, non, mais attendez, il y a eu des escarmouches, bien sûr, il dit, non, mais attendez, la ligne Durand is a non-resolved issue, c'est une question qui n'est pas résolue. Et l'autre, le ministre des Affaires étrangères, qui dit, non, mais on prendra le temps, mais on récupérera les territoires. Il a réemployé le mot usurpé.
Ces territoires usurpés dont parlait déjà dans les années 70 le président Daoud dont, voilà. Dont vous parliez, qui avait exposé aux parlementaires afghans sa politique en faveur d'un Pachounistan unifié. Lui, c'était un président qualifié de séculier, comme oui, vous racontez très, dans vos travaux, très, qui très, a contre lui une opposition islamique dont les chefs trouvent alors l'asile au Pakistan. Le premier ministre pakistanais les installe à Peshawar. Les finances étaient Ali Bhutto, le clan Bhutto qui, encore aujourd'hui, est très puissant au Pakistan. Vous dites qu'il invente la guerre par procuration djihadique, puisque les jeunes insurgés qu'il abrite à Peshawar, qu'il installe à Peshawar, seront plus tard les puissant chef des Moudjahidines, notamment contre l'invasion soviétique. Aujourd'hui, comment, à la frontière, se sont formés et continuent à se former, à se dissoudre, à se reformer des groupes islamistes et terroristes au gré des alternances à Islamabad? Parce que ce qui se passe à la frontière, de ce qu'on comprend de vos propos, Georges Lefebvre, c'est que ça dépend beaucoup aussi de la politique pakistanaise.
Oui, oui, bien sûr. Alors, oui, en effet, Bhutto, Ali Bhutto, avait reçu, comme vous le disiez, des universitaires islamiques qui étaient opposés au président afghan Daoud. Et parmi ces gens-là, il y en avait un qui s'appelle Massoud, c'est le commandant Massoud. Il y en avait un autre qui s'appelait Gulbuddin Hekmatyar, qui était le chef du grand parti Hezbi Islami, qui sont les deux, il y en a d'autres bien sûr, mais qui ont mené la vie très très dure, en effet, aux soviétiques après. Donc c'est ça que j'appelle une guerre par procuration. Parce que lorsque les soviétiques sont arrivés, il n'était pas question, même pour les Américains, d'intervenir pour empêcher les soviétiques d'envahir un pays comme ça, en plus tout proche de la mer d'Oman et de l'océan Indien. Donc les Américains ont financé royalement énormément tous ces Mujahidines, donc, qui sont les combattants de la guerre sainte pour libérer leur pays, parmi lesquels Massoud, dont je viens de parler, parmi lesquels Gulbuddin Hekmatyar et tant d'autres que je ne vais pas citer ici aujourd'hui. Donc c'est les Américains et nous, on a financé cette guerre sainte contre les Soviétiques. Et c'est comme ça que le nationalisme pachtoun, qui jusqu'alors était très séculier, néo-marxiste, il y aura un focus sur le Baloutchistan, on en parlera, les rebelles sont très marxistes d'origine. Et c'est comme ça que le nationalisme pachtoun transfrontalier est passé de la, je dirais, rigueur marxiste, déçue à cause de l'invasion des soviétiques, et a sauté sur les genoux des moullahs. Et c'est comme ça que s'est formé Al-Qaïda, etc. Et tout et tout.
Mais comment le Pakistan a-t-il soutenu ensuite, au fil des années et jusqu'à aujourd'hui, des groupes par ailleurs terroristes? C'est pendant les 11 années d'alternance, par exemple, des gouvernements civils de Benazir Bhutto et Nawaz Sharif, donc dans les années 80, fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90. C'est pendant ces 11 années qu'au moins 8 groupes terroristes ont été créés et enregistrés, qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. C'est par exemple sous le mandat de Benazir Bhutto en 94-96 que les talibans Liban ont été mis sur orbite à partir des zones tribales. Est-ce qu'il y avait une stratégie définie, explicite? Vous parlez de sécuriser la profondeur stratégique du Pakistan autour de la frontière. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors voilà, on a souvent dit que la profondeur stratégique, c'était le repli de l'armée pakistanaise en cas d'attaque conventionnelle de l'Inde. Je n'y ai jamais cru, et je vais vous dire pourquoi. Et j'ai rencontré une fois, c'est en 94, le général Babar,
qui
était le ministre de l'Intérieur du gouvernement de Benazir Bhutto. Et lui, qui était un général, me dit, mais attendez, la profondeur stratégique pour se mettre à l'abri d'une attaque indienne, mais c'est aussi idiot, me dit-il, que si quelqu'un écrivait que les Allemands attaquent dans les Ardennes, et l'armée française se réfugie à Saragosse, de l'autre côté des Pyrénées, il me dit en distance et en topographie, c'est à peu près proche, pour refouler l'invasion allemande.
Il connaissait non. bien la géographie française, le général Babar.
C'est un général quand même, donc ça, il connaît ça. Et alors, il me dit, non, la profondeur stratégique, c'est tout à fait autre chose. D'abord, c'est pas un mot que les Pakistanais emploient. Il dit, non, cette ligne Durand est une plaie qui va s'infecter, qui va s'infester. Et je l'ai écrit aussi quelque part, une plaie qui ne se referme pas, elle s'infecte de bactéries qui viennent de l'extérieur. Et là, les bactéries de l'extérieur, ben, c'est Al-Qaïda en 1986, et puis d'autres, on ne va pas tout détailler maintenant. Mais on est passé d'un système insurrectionnel à un système terroriste à cause d'une frontière qui ne se guérit jamais. Alors là, il me dit, c'est très simple. En installant les talibans, grâce au service secret de l'armée, grâce à ISI, on installe les talibans à Kaboul. Nous ne souhaitions pas qu'ils soient aussi barbus, c'est le mot qu'il employait. Bon, mais il ne voulait pas que ce soit forcément des intégristes musulmans à ce point-là. Mais bon, ce sont des good muslims, ce sont des bons musulmans, et ils sont tous pashtuns. Or, la ligne de rang, c'est la question pashtune qui compte. Ils sont tous pashtuns. Et ils devront leur pérennité à nous. On va assurer la pérennité du régime. Ils n'ont pas réussi parce qu'il y a eu le World Trade Center qui a tout basculé après, quoi. Bien sûr, en 2001, et l'arrivée des Américains et les talibans qui sont chassés. Mais Babar me dit à l'époque, donc je le revois en 96 quand ils ont pris le pouvoir, je vois aussi très souvent sa nièce qui écrivait dans le News, qui est un très bon journal, Mariana Babar, qui me disait en anglais, mais à cette époque, les talibans, on arrivait à les gérer. They were good guys. C'était des gens sympas, quoi.
Ah oui, on est vraiment dans les débuts des années 90.
Oui, oui, oui. Enfin, alors lui, il me dit, voilà, comme les pashtuns talibans devront leur pouvoir à notre bonne volonté, on arrivera bien à les décider à reconnaître
la ligne
du rang comme étant international border. Et à ce moment-là, on verra le modus operandi des deux côtés, on verra le modus vivendi, mais on n'aura plus aucune raison d'avoir peur de l'Afghanistan, d'avoir peur des Pashtuns, qui revendiquaient à l'époque un Great Pashtunistan, c'est-à-dire un grand Pashtunistan unifié.
C'est ça
l'origine.
Mais ce qui prime chez les talibans, et ce qui prime toujours chez les talibans aujourd'hui, c'est le fait qu'ils soient Pashtuns. Donc a priori,
oui,
ils ne reconnaîtront jamais cette ligne du rang qui divise le peuple
pashtun.
Alors
ils l'ont déjà dit, voyez-vous, ils l'ont déjà dit, puisqu'ils disent que c'est un unresolved issue, c'est une question qui n'est pas résolue. Mm. Bon, mais bien sûr, mais là, on peut dire que le Pakistan est victime de l'arroseur arrosé. Et les talibans, lorsqu'ils négociaient les accords de Doha, pas seulement ça, il y avait aussi des conférences internationales à Moscou. Et je me souviens de Baradar, qui était le grand négociateur, qui était à Moscou, et qui disait, non, mais vous ne faites pas de soucis, nous faisons la reconquête du pays au nom de la charia, et la charia ne distingue pas les ethnies. Ce que j'ai dit au début, la Oumma, que vous soyez sénégalais ou pakistanais, vous êtes musulman. Donc, nous ferons un gouvernement qui tient compte de la composition ethnique du pays, et ça fait 4 ans qu'ils sont là, et
qu'ils n'ont pas fait. Le Pakistan avait placé beaucoup d'espoir dans la prise de Kaboul et de l'Afghanistan en 2021, en tout cas dans leur retour au pouvoir aussi. Un reportage paru à l'époque dans la presse afghane, le journal Gandhara, traduit par Courrier International, racontait comment le puissant chef des services secrets extérieurs pakistanais arpentait les rues de Kaboul en vainqueur, accordait des entretiens à la presse étrangère pour dire « ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer », mais l'allié est finalement devenu ennemi, puisque les talibans ne contrôlent pas du tout le mouvement Tehrik et Taliban, donc le TTP qui multiplie les attaques sur l'armée pakistanaise depuis les montagnes afghanes, donc ils traversent régulièrement cette frontière qui reste quand même très poreuse, jusqu'où d'ailleurs les liens entre les talibans afghans et les talibans pakistanais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont très proches idéologiquement et dans l'organisation, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils le financent, les talibans pakistanais, voire les encouragent à ces attaques?
Je vais vous expliquer. Le TTP, Tehrik et Taliban Pakistan, est né en effet dans le Waziristan, en gros, avec la tribu Massoud. Et puis ils ont fait tellement de mal à l'État pakistanais. Il faut quand même savoir que le TTP a été mortifère, c'est incroyable. Ils ont attaqué. Général Musharraf a dû échapper à 3 attentats. Benazir a échappé à 1 attentat avant d'être tué en décembre 2007. Et puis ils ont attaqué des bases navales, etc. C'était la panique. Si bien que l'armée, c'était le général Kayani, à l'époque le chef d'état-major des armées, a décidé d'attaquer frontalement. Avec 30 000 hommes, il attaque le Waziristan pour que les militants du TTP, Tehrik et Taliban Pakistan, se réfugient côté afghan. Alors, côté afghan, je vais être bref, ils vont donner un coup de main aux talibans afghans pour reprendre le pouvoir. Mais, entre-temps, il y a eu les accords de Doha. Le seul engagement, le vrai, c'est très pauvre, les accords de Doha. Les talibans se sont engagés, pour tout dire, à rien, sauf une chose. Ils ont promis, que jamais ils ne garderaient des contacts avec Al-Qaïda ou d'autres groupes terroristes qui pourraient menacer la sécurité des USA. Pour Trump, il n'y avait que le deal qui l'intéressait, quoi, les USA.
Premier mandat.
Et alors, voilà, eh bien, ce qu'ont fait les talibans dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont dit au TTP, vous êtes bien gentils maintenant, merci, vous nous avez aidés, maintenant vous retournez là-bas. Mais en retournant là-bas, en fait sur la frontière, ils n'ont pas vraiment passé, eh bien ils ont embarqué avec eux tous leurs partenaires, et c'est quoi le TTP ? C'est un conglomérat d'une trentaine de groupes, une vingtaine quand c'était créé en 2005 et 2007, une vingtaine de groupes, qui sont des groupes terroristes, pachtounes, etc., des groupes anti-chiites également, d'ailleurs, je vais pas tous les nommer, et puis des groupes d'Al-Qaïda. Le mouvement islamique d'Ouzbékistan s'acoquine avec le fondateur du TTP, ainsi que le East Turkestan Islamic Party, donc les Ouïghours. Il y a plein de cellules d'Al-Qaïda qui s'agglomèrent avec ces gens-là pour fabriquer le TTP. Donc quand le TTP repart à la frontière, le TTP embarque avec lui les cellules d'Al-Qaïda, et Kaboul peut dire à Washington « Ah nous, on n'a aucun contact avec Al-Qaïda ». Mais en sous-main, ça les arrange bien, puisqu'ils veulent récupérer les territoires usurpés.
Et ces talibans pakistanais sèment la terreur dans les zones frontalières. Les commerçants, par exemple, se font racketter par les TTP, dont ils reçoivent régulièrement des menaces.
Ce message dit, vous n'avez pas répondu à mon dernier message. Toutes les personnes influentes sont en contact avec nous, et nous avons pardonné à la plupart d'entre elles. Vous ne serez pas en paix tant que vous serez un ennemi des talibans. Leur exigence est qu'il est de ma responsabilité en tant que musulman, selon eux, de les aider financièrement. Ils m'ordonnent, en tant que responsable du syndicat des commerçants, de collecter 3000 roupies dans chaque magasin. Selon moi, au moins 300 commerçants de Mingora ont été approchés par les talibans pour des extorsions. Ils ont un système très sophistiqué. Ils envoient à la personne des informations personnelles. Ils leur donnent des détails sur leurs enfants, des écoles qu'ils fréquentent, puis les menacent de les kidnapper, eux et leurs enfants, s'ils ne donnent pas l'argent. Certains des commerçants ici ont cédé.
Le représentant des commerçants locaux dans la vallée de Swat au Pakistan, interrogé par France 24, Georges Lefeuvre, la seule année 2024, ce sont 4400 personnes qui ont trouvé la mort sur la frontière pakistano-afghane, sans compter tous les attentats très nombreux qui endeuillent le Pakistan absolument tous les mois. Parmi tous les groupes djihadistes à la frontière, le Pakistan se bat-il seulement contre ceux qui sont côté afghan? Autrement dit, est-ce qu'il a un choix sélectif des cibles terroristes à détruire?
Il attaque surtout le TTP, en effet, le TTP, puisque c'est le TTP qui attaque l'armée pakistanaise en priorité. Et avec le TTP, ça veut dire forcément qu'il va aussi attaquer les groupes exogènes, mais qui font partie du TTP. Donc il peut se trouver à attaquer, par exemple, une base. Ça a été fait au mois de janvier. Et au mois de janvier 2024, il y a eu un échange de bombardements d'Iraniens sur le Baloutchistan, on en parlera plus tard, et de Pakistanais sur le Baloutchistan aussi. C'était tit for tat, c'était tout à fait ciblé. Mais en fait, c'était un camp d'entraînement de John Doula, qui est un, qu'on appelle maintenant un petit peu différemment, mais qu'importe, de John Doula, qui est un parti terroriste, islamiste, surtout fort dans le Baloutchistan iranien, séistan, etc. Donc il est amené aussi à faire ça, bien sûr.
En tout cas, l'armée pakistanaise ne se prive pas, quand même, il faut le dire aussi, de tuer des civils très régulièrement dans les attaques et contre-attaques qu'elle mène contre certains groupes terroristes, oui, parce oui. que d'autres, en revanche, ne tombent pas sous leurs balles, d'où la question sur le choix sélectif des cibles terroristes à détruire. C'est aussi pour punir, entre guillemets, le régime taliban en Afghanistan, d'abriter des groupes qui mènent leurs actions terroristes au Pakistan, qu'Islamabad a annoncé très récemment une nouvelle campagne d'expulsion massive d'Afghans. Georges Lefebvre, qui vivait au Pakistan depuis quand, pour les plus installés d'entre eux, comment on peut raconter en quelques mots ces différentes vagues d'arrivées d'Afghans au Pakistan?
Certains sont arrivés dès 1980, après l'invasion des Soviétiques de décembre 1979. Moi, j'étais à Peshawar à l'époque, je me souviens, il y avait 300 000 réfugiés, et au mois d'août, il y en avait 1,2 million. Ça a été une vague, rien qu'à Peshawar. Donc, il y a des gens qui ont 50 ans aujourd'hui, et qui avaient 10 ans à l'époque, et qui ne connaissent pas, ou même certains qui ont 40 ans, 45 ans, qui ne connaissent pas l'Afghanistan, qui n'y sont pas nés. Donc c'est un petit peu une catastrophe. Alors bien sûr, c'est à la fois une punition contre Kaboul, contre l'Afghanistan, et c'est en même temps l'expression d'une peur, parce que le nombre d'Afghans qui ont été arrêtés puis expulsés est proportionnel à la taille des villes où des concentrations d'Afghans font peur à l'armée pakistanaise. Mais je vais vous donner un chiffre, il est extrêmement récent, il date du 5 septembre 2025, par les Nations Unies, bien sûr, par l'Office de la coordination humanitaire d'Afghanistan. Il y a eu, je vais arrondir les chiffres quand même, 532 000 Afghans ont été renvoyés de force. C'est énorme. Voilà. Et ça s'accélère, puisque parmi ces 531, il y en a 145 200 rien qu'au mois d'août dernier.
Le Pakistan avait donné jusqu'au 31 mars alors, à 800 000 Afghans présents sur son territoire voilà. pour quitter le pays, faute de quoi ils seraient expulsés.
Alors, donc, il y en a déjà 531 qui sont partis. D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, j'ai le détail, je ne vais pas vous le donner, mais il resterait actuellement 1 350 000 qui ne sont pas encore expulsés. Et si on ajoute le nombre beaucoup plus important expulsé d'Iran, pour l'économie afghane, et on arrive en tout, en un an, 2025, pas un an, 8 mois, à 2,5 millions.
Alors que concernant les Afghans qui s'étaient installés au Pakistan, parfois très récemment, parfois depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, bien sûr, aucun n'avait envisagé d'y retourner.
Bien sûr.
Voici les papiers fournis par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mes deux filles, Sabarjana et Rasuljana, allaient à l'école ici. En Afghanistan, les écoles pour filles sont fermées, donc c'est une grande inquiétude pour nous. C'est le cœur lourd que je pars. Toute ma vie était ici. Ma maison, mon commerce. Nous élevions du bétail. Mais quand nous avons dû partir, nous avons été forcés de tout vendre à moitié prix. Nous ne sommes pas familiers de la situation en Afghanistan. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, il n'y a plus de travail, plus d'opportunités.
Un réfugié afghan au Pakistan interrogé par France 24 le 18 juillet dernier, peut-être a-t-il été expulsé d'ailleurs depuis, peut-être encore un mot, Georges Lefebvre, puisque le gouvernement pakistanais a aussi récemment utilisé une autre mesure de rétorsion, la hausse des droits de douane sur les importations et les exportations afghanes. En deux mots, de quelles marchandises s'agit-il? Est-ce qu'elle passe elle aussi par cette frontière? Parce qu'on entend plutôt dire qu'elle transite par le port de Karachi, ce qui voudrait dire qu'elle ne cherche même pas à franchir cette frontière comme si c'était peine perdue.
Non, il n'y a pas de denrée qui arrive d'Afghanistan par Karachi, parce qu'il n'y a pas de port afghan.
C'est pour
afghan.
Ça que j'ai pas compris pourquoi ceux qui disaient qu'ils allaient monter les hausses douanières s'en référaient à ce port de Karachi.
Alors si c'est des hausses douanières qui sont dirigées contre les Afghans, là c'est pas possible, c'est plutôt...
Bon, donc c'était une erreur.
C'est pas possible. En revanche, quand la frontière n'est pas fermée, il y a des passages, bien sûr, à Tolkham et puis à Chaman, c'est beaucoup des fruits secs, des choses comme ça, mais là je suis pas économiste, donc je vous donnerai pas les détails. Mais il peut y avoir de la marchandise qui passe par le port de Chabahar iranien, peut-être, et qui revient sur Karachi. Mais ça,
et est-ce qu'il peut parfois y avoir des solidarités autour de cette frontière? Le tremblement de terre du 31 août, est-ce qu'il a occasionné dans l'organisation des secours, notamment une solidarité, ne serait-ce qu'un dialogue entre les forces pakistanaises et les forces afghanes?
Oui, là-dessus, il n'y a pas de problème, et je dirais que les Pakistanais sont de formation très british, donc ils sont très, très smart dans ce genre de situation. Donc ça se passe bien. La vraie difficulté, elle est ailleurs. C'est que même si le Haut-Commissariat aux réfugiés arrive à passer du matériel, de l'argent, de la nourriture, etc., il y a un vrai problème avec le régime des talibans. Il n'y a plus de femmes infirmières, il n'y a plus de femmes médecins, et celles qui le sont encore n'ont pas le droit d'exercer depuis 2 ans, 3 ans, et peut-être pas maintenant non plus. Et quand il s'agit de chercher des gens sous les décombres, si c'est une femme, on la laisse. Parce qu'un homme ne peut pas s'occuper d'une femme. Et là, il y a un vrai problème qui a d'ailleurs été souligné par le Haut Commissariat aux réfugiés, par l'UNAMA, par tout ça. Ça, c'est extrêmement grave. On voit trop vite la bêtise de cette ségrégation genrée qui fait que ben, les femmes n'ont pas accès aux femmes. Elles sont blessées comme les autres, ou mortes.
करके सोला सिंगार मैं अब क्यों होश में आता नहीं सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं क्यों तोड़ूं खुद से जो थे वादे के अब ये इश्क निभाना नहीं मैं मोड़ूं तुमसे जो ये चेहरा दोबारा नजर मिलाना नहीं ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर क्यों आता नहीं सोने आयो तेरा शर्माना मेरी जान ना ले ले कान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी माता बा तेरा नखरा इसके बार क्या कहने थाम के बैठे दिल को घायल कहीं हार ना बैठे तेरी नजरें मुझसे क्या कहती हैं इनमें वफा बहती है थोड़ी थोड़ी सी राजी थोड़ी सी खफा रहती है लोग हैं जालिम बड़े इनमें जफा देखी है ये दुनिया तेरी नहीं मैंने तुझ में हया देखी है
Le chanteur pakistanais Afuzik et sa toute nouvelle chanson Pal Pal, ça veut dire chaque instant. Nous parlons ce matin dans Culture Monde de la frontière pakistano-afghane dessinée à la fin du 19e siècle par un certain Durand, la ligne Durand, zone de fracture historique et aujourd'hui de terrorisme et de séparatisme. Un séparatisme qui existe dans une autre province pakistanaise dont Georges Lefeuve nous parlait tout à l'heure. C'est à la frontière avec l'Afghanistan et avec l'Iran. C'est le Baloutchistan.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Les gens criaient et pleuraient. Certains se sont couchés, nous aussi. Tout le monde s'est couché. Il y a eu des coups de feu et des explosions. Et après que les assaillants nous aient dit de sortir, les gens étaient réticents. Mais nous sommes descendus avec les enfants. Lorsque nous sommes sortis, ils nous ont laissés, ma femme, mes enfants et moi, en nous disant de ne pas nous retourner et de partir.
Le 11 mars dernier, un groupe séparatiste baloutche faisait sauter une voie ferrée, arrêtait dans un tunnel un train de 9 voitures qui se rendait à Peshawar et prenait en otage les 450 passagers en exigeant la libération des prisonniers du Baloutchistan dans les 48 heures. Alors les bilans varient selon les sources, mais 21 passagers ont semble-t-il péri. Les autres, semble-t-il, ont été libérés par les forces de sécurité pakistanaises qui ont par ailleurs tué les assaillants. Au sud-ouest du Pakistan, donc adjacent à la fois à l'Iran et à l'Afghanistan, le Baloutchistan, qui couvre 40% du pays, abrite des groupes qui revendiquent un territoire à cheval sur ces trois pays de la frontière. Bonjour Didier Chaudet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géopolitologue associé à l'Observatoire de la Nouvelle-Eurasie, membre du comité de rédaction de la revue Défense Nationale. Que sait-on d'abord de ce groupe qui a mené la prise d'otage du mois de mars, la BLA, l'Armée de Libération du Baloutchistan? Combien d'hommes compte-t-elle notamment?
L'Armée de Libération du Baloutchistan, d'après ce qu'on sait, devrait avoir à peu près 3000 hommes. Il est lié à d'autres acteurs séparatistes. Ils sont plutôt de tendance sécularisée. On n'est pas face à des islamistes cette fois, mais on est face à des gens qui ont pu avoir des liens avec des groupes islamistes, notamment les talibans pakistanais, le TTP. Ils se seraient inspirés d'eux, notamment pour l'organisation de leurs attentats suicides et de leurs attaques terroristes en général, qui sont montées en puissance depuis 2021. Ils ont eu notamment accès à l'armement américain laissé en Afghanistan après 2021. et ça leur a donné un véritable avantage sur le territoire pakistanais. En 2025, on peut dire que le centre pakistanais véritablement s'inquiète de la situation dans son territoire baloutch.
Est-ce qu'il y a des liens, des échanges, des solidarités entre les séparatistes baloutches du Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Iran ?
En fait, du côté afghan, on ne parle pas véritablement d'un séparatisme baloutche qui serait anti-afghan. Par contre, il semblerait que les séparatistes baloutches puissent toujours agir d'Afghanistan et surtout et leurs familles sur place. Les talibans nient les faits, mais il semblerait qu'ils aient expulsé un certain nombre de séparatistes baloutches pour faire plaisir au Pakistan à l'époque où ils protégeaient le TTP, donc du coup, il fallait donner un lot de consolation à Islamabad. Mais il semblerait que, quoi qu'il arrive, sur place, on retrouve les séparatistes baloutches, notamment pakistanais, une bonne façon de faire pression sur le Pakistan avec qui il y a des relations difficiles. Les liens entre séparatistes baloutches iraniens et pakistanais existent de fait, mais on voit que du côté des baloutches iraniens, on voudrait les développer. On est face à deux idéologies différentes. Du côté des baloutches iraniens, on est plus influencé par le djihadisme sunnite parce qu'on est contre un État chiite. Alors qu'au Pakistan, comme on était face à un État qui avait pu utiliser par le passé l'islamisme sunnite, on était plus sécularisé, on était plus laïque. Mais de fait, ce qui compte des deux côtés, c'est la nation baloutche. Et il y a 3 mois à peu près, le Jaish-ul-Adl, qui est le groupe principal de séparatistes slash djihadistes baloutches iraniens, a appelé les baloutches pakistanais à soutenir son combat en Iran.
Donc, vous parliez aussi de baloutches davantage laïques au Pakistan, qui se réclament aussi pour beaucoup ces combattants du marxisme. Georges Lefebvre l'a mentionné rapidement tout à l'heure. En opposition à l'État pakistanais, plutôt proche des États-Unis et de l'Occident, en particulier pendant la guerre froide, alors que les baloutches iraniens, disiez-vous, Didier Chaudet, insistent plutôt sur un séparatisme comme projet politique, mais leur lutte revêt un caractère islamiste. Donc, les baloutches ne sont pas un peuple uni.
Ils ne sont pas un peuple uni à cause de leur histoire. La conquête des deux zones baloutches est ancienne. Les baloutches, c'est un peuple qui a raté son tournant vers l'État moderne, contrairement aux Pashtuns, en partie à cause des Pashtuns, parce qu'ils ont été vassalisés par les Pashtuns à Ahmad Shah Durrani au XVIIIe siècle. Puis il y a eu l'action de l'empire Qajar persan d'un côté au XIXe siècle et le Raj britannique de l'autre qui les a empêchés véritablement de se développer comme État. Mais malgré tout, ce qui unit ces acteurs, on peut parler de marxisme d'un côté et d'islamisme sunnite de l'autre, c'est quand même l'ethno-nationalisme qui est plus important que tout maintenant des deux côtés. Ce qui peut expliquer des relations qui sont déjà là de fait, mais qui ne sont pas poussées jusqu'à une lutte commune.
Est-ce qu'on peut parler ici, à cet endroit précis de la frontière entre Pakistan et Afghanistan ou Baloutchistan, c'est la ligne du rang ou pas ? Il me semble que c'est plus la ligne du rang. Qui a décidé de ces frontières précisément à cet endroit-là, pour remettre la discussion sur le rail de notre série sur les frontières ?
Ça n'est plus la ligne du rang, mais c'est toujours la faute des Britanniques. Moi, l'idée de critiquer la perfide Albion. Mais malgré tout, on a un impact de la colonisation ici et d'une survie d'un certain impérialisme iranien aussi de l'époque. Mais en fait, il a fallu attendre les Pahlavi pour véritablement que la zone iranienne baloutche soit mise sous contrôle. Dans les deux cas, que ce soit le Raj britannique, puis le Pakistan d'un côté et les différents régimes iraniens de l'autre, il y a eu une incapacité d'inclure véritablement les Balouches dans l'espace national. Et les deux États, les deux centres en payent le prix aujourd'hui.
Alors on sait, le Pakistan et l'Afghanistan, peu à même de se parler des Pashtuns, on le disait dans la première partie, on imagine bien que c'est la même chose au sujet des Baloutches. Et avec le régime iranien, alors est-ce que le gouvernement pakistanais veut et peut aborder cette question avec l'Iran ?
Il y a eu des tensions par le passé, en 2024, encore tout récemment, avec les Pakistanais qui accusaient les Iraniens et vice-versa de soutenir leurs séparatistes respectifs. Mais aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas véritablement le choix. Ils doivent se parler, ils doivent coopérer entre eux, parce que dans les deux cas, ils ne réussissent pas à casser cette tendance séparatiste. D'autant plus qu'il y a toujours la peur ou la réalité de l'action d'autres acteurs internationaux. Du côté des Pakistanais, on craint l'influence indienne. En mai dernier, l'armée de libération du Baloutchistan a appelé l'Inde à reconnaître leur indépendance et à leur ouvrir une ambassade. Et ils ont mené des actions terroristes pendant que le Pakistan était aux prises avec l'Inde. Du côté iranien, il y a la peur d'une influence israélienne ou d'une influence américaine. On sait notamment par des analyses du journal Foreign Policy, il y a maintenant une petite douzaine d'années, qu'il y avait eu au moins une tentative d'approche de l'administration W. Bush pour parler aux séparatistes baloutches sunnites. Et il semblerait que les Israéliens, pendant un temps en tout cas, ont essayé de nouer des liens un peu plus poussés avec eux en se faisant passer pour des membres de la CIA. Ça, c'est un article qui se retrouve dans le journal Foreign Policy, un journal très sérieux qui s'appelle False Flag. Mais tout ça, on est dans une logique de bonne guerre. Les Pakistanais ont utilisé les talibans contre les Afghans. Les nationalistes hindous du BJP semblent soutenir les tendances les plus conservatrices au Népal. Ceux qui veulent refaire du Népal un État hindou, donc ils les soutiennent indirectement pour avoir une influence dans l'État. Que d'autres acteurs essayent d'utiliser des acteurs non étatiques pour avoir un avantage contre leurs ennemis, qu'ils soient pakistanais ou iraniens, n'est pas totalement choquant. Mais du coup, il y a une peur à Téhéran et à Islamabad d'être dans une situation difficile face à d'autres ennemis qui leur font bien plus peur en fait que les séparatistes baloutches.
Merci beaucoup Didier Chaudet d'avoir été avec nous, géopolitologue associé à l'Observatoire de la Nouvelle-Eurasie et membre du comité de rédaction de la revue Défense Nationale. Merci Georges Lefebvre, peut-être un mot parce qu'on n'a pas du tout parlé des trafics de drogue. Or au Baloutchistan c'est une question, enfin le trafic d'héroïne notamment existe, profitant de cette zone frontalière très poreuse, enfin tous les trafics que l'on peut connaître dans des zones frontalières. Sur la ligne du rang, pour revenir à celle-ci, entre Afghanistan et Pakistan, est-ce que le fait que les talibans ont interdit la production d'opium, est-ce que ça a changé quelque chose dans cette déstabilisation de la région ou restabilisation?
Je ne pense pas pour la déstabilisation ou la restabilisation, parce que moi j'ai connu à l'époque de la guerre contre les soviétiques, rien que dans la passe de Khyber, il y avait 60, je m'en rappelle, 60 laboratoires de transformation du pavot en héroïne. Bon, ça fait partie du jeu. C'est tout. Mais en revanche, ça c'est un petit peu amusant, les talibans sont très contents de dire que maintenant c'est pas eux les premiers exportateurs d'héroïne, c'est le Pakistan. Mais évidemment, comme les Afghans, ça s'est baissé de 94%, il y a forcément de la production au Pakistan, mais c'est pas très très significatif.
Merci beaucoup Georges Lefebvre d'avoir été avec nous, chercheur associé à l'IRIS, ancien diplomate. Merci d'être venu jusqu'ici dans nos studios, puisque vous vivez loin, pour parler de cette région que vous connaissez si bien.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous parlez, Catherine, toujours de l'Afghanistan, mais pour une bataille culturelle, autour des livres notamment.
Et c'est un article qui m'a particulièrement marqué ce matin dans les colonnes d'El País. En Afghanistan, cette bataille culturelle est loin de se jouer à armes égales sous le joug des talibans. Les Afghans doivent traverser au quotidien un labyrinthe d'interdits qui régissent tout, de leur pas à leur voix, puisque depuis le retour des talibans il y a 4 ans, les islamistes ont systématiquement rayé les femmes de la vie publique avec une rapidité et une ampleur sans précédent, souligne El País et le New York Times. Aujourd'hui, les Afghanes n'ont pas le droit d'aller à l'école au-delà de 12 ans. Les femmes ne peuvent pas voyager sans être accompagnées d'un proche parent, un mari ou un frère. Elles sont exclues de la plupart des emplois, des parcs publics, des salles de sport, des bibliothèques, énumère El País. Les femmes n'ont plus le droit de parler fort aussi en public. Et des secouristes ont même laissé des Afghanes se vider de leur sang après le terrible séisme du début du mois, craignant d'enfreindre la loi talibane qui interdit interdit tout contact physique entre un homme et une femme qui ne sont pas de la même famille. Des femmes, des adolescentes afghanes sont donc mortes, écrasées sous le poids des décombres et des discriminations, car les sauveteurs ont hésité ou refusé de les toucher, raconte le New York Times. Désormais, les Afghanes disparaissent aussi de certaines matières enseignées à l'université, rapporte la chaîne d'information saoudienne Al Arabiya. Les talibans ont supprimé près de 700 ouvrages universitaires et 18 matières sur le rôle des femmes dans les relations publiques, le système politique, rayé également du cursus universitaire, des parties sur les droits humains, la démocratie, la constitution afghane ou encore le thème sur le harcèlement sexuel. Des mesures ont déjà été prises en matière de publication, de révision et de contrôle des livres à Kaboul et dans tout l'Afghanistan, décrit la chaîne télévisée Afghanistan International, basée à Londres. Les éditeurs nous ont raconté qu'un grand nombre de livres avaient été confisqués parce qu'ils s'opposaient aux idées des talibans, dont le but est de préserver leur idéologie, de contrôler l'information et supprimer aussi l'histoire, l'identité de plusieurs pans de la population. C'est ce qu'a notamment tenté de faire l'Allemagne nazie, rappelle la chaîne télévisée Afghanistan International. Et ceux ou celles qui lisent des livres bannis par les talibans, qui s'instruisent en secret, sont persécutés et battus. Leurs familles risquent aussi de lourds châtiments.
Et pourtant, Catherine, des femmes afghanes défient les talibans.
En organisant des clubs de lecture clandestins dans l'ombre de Kaboul, la résistance se manifeste dans des réunions secrètes, des réunions virtuelles aussi depuis l'exil, raconte El País dans un article qui insuffle de l'espoir. Oui, des femmes afghanes lisent, débattent et partagent des fichiers PDF numérisés de livres interdits par les talibans. C'était bien mal parti. Pourtant, pour Farah, elle rangeait des livres sur les étagères de sa bibliothèque pour femmes à Kaboul lorsque les talibans ont repris la capitale afghane l'après-midi du 15 août 2021, se souvient-elle dans les colonnes d'El País. Cette diplômée en droit de 29 ans, qui utilise le pseudonyme de Farah pour sa sécurité, a vu ses rêves s'effondrer en quelques heures. Farah a dû vendre à la hâte chaises et étagères, mais la collection de 4000 livres a été déplacée à la faveur de la nuit dans un lieu secret de Kaboul, alors même que les islamistes resserraient leur emprise sur les femmes, étouffant le cri des manifestants. Des manifestantes avec des arrestations en série et des agressions sexuelles aussi en prison. Farah a trouvé, elle, un moyen de faire revivre sa bibliothèque. Elle s'est connectée en ligne avec une amie pour créer un groupe de lecture sécurisé sur WhatsApp et Telegram, transformant ainsi sa bibliothèque physique en un réseau numérique de résistance. Après vérification de leur identité, près de 300 femmes ont pu rejoindre ce groupe WhatsApp où Farah explique à El País fournir des PDF numérisés des livres conservés. Il m'arrive de prêter aussi des livres imprimés si je fais entièrement confiance aux membres.
Et malgré les risques, la demande de livres augmente.
Les romans, notamment, sont très prisés, raconte Farah, la jeune afghane dans les colonnes d'El País. Elle estime que les femmes se tournent vers la littérature à la fois comme échappatoire et comme moyen de subsistance, en quelque sorte. Faïma, 18 ans, qui demande à être identifiée uniquement par son prénom, a rejoint le club peu de temps après que les talibans l'ont empêchée de réaliser son rêve de devenir médecin. Faïma a lu 35 livres grâce au club clandestin, ce qui lui a inspiré, ajoute-t-elle, Païs, l'écriture du chemin de la lumière, le récit de la vie d'une jeune afghane sous le régime taliban. Faïma espère raconter aux générations futures ce que sa génération a perdu. Quant à Farah, elle compte mener le combat jusqu'au jour où les femmes pourront à nouveau lire et vivre librement en Afghanistan, le jour où elle pourra rouvrir sa bibliothèque.
Merci beaucoup, Catherine Dutu.